Une position qui est idéale pour le romancier.
Oui, sans doute. De la même manière qu'un romancier observe davantage qu'il ne juge, puisqu'après tout, quand il s'agit de décrire quelque chose, mieux vaut rester dans l'ombre soi-même, mieux vaut laisser s'exprimer celui que l'on veut décrire et approfondir. Et de fait, l'attitude du romancier sera davantage dans l'observation et dans l'écoute que dans l'imposition d'un jugement ou d'une opinion.
Il y a aussi la notion du temps qui passe dans cette perspective-là. Un de vos personnages, je pense que c'est Simon, si je me souviens bien, veut reprendre contact avec Antoine, le narrateur, et Antoine se dit, il va vouloir reprendre un débat que nous avons eu, sans s'être rendu compte, lui, que le temps ayant passé, j'ai changé de conviction. C'est un peu dans ce sens-là qu'on peut lire aussi cette interrogation qu'inspire chez vous Gide.
Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Vous êtes tout à fait là dans la justesse, dans l'analyse du texte. Il y a le temps qui passe. Il faut se dire aussi que c'est une époque où les protagonistes ont 20 ans et où le temps qui passe, passe vite. Je veux dire, les événements se succèdent. On est évidemment soumis à des influences considérables de l'extérieur. Si on y adhère, si on les laisse s'exprimer, eh bien, on est évidemment dans une confrontation, je dirais, quotidienne, de la même manière d'ailleurs que Antoine est aussi confronté à un moment donné à un ecclésiastique, un carmélite précisément, qui est totalement séduisant pour lui, qui est pourtant agnostique, avec ce passé protestant, certes, mais qui ne conduit certainement pas à adhérer à une attitude d'un ecclésiastique pur et dur comme peut l'être un carmélite, et néanmoins il l'écoute et il se laisse à un moment donné tenter, y compris d'ailleurs de collaborer avec ce carmélite qui lui dit « Écoute, viens dans ma revue qui s'appelle Foi vivante, participe à cette revue ». Et il est alors soumis comme ça à des propositions les plus diverses, puisque son ami Jack vient le trouver en lui disant « Le dollar ne pourra plus se convertir en or, j'ai besoin de toi ». Pour que tu m'expliques comment ça se passe. Et le soir même, l'ecclésiastique s'approche d'Antoine en disant « Rejoins-moi dans Foi vivante, ce que tu peux dire sur le protestantisme m'intéresse ». Et tout ça se passe dans la même journée. Donc on est dans un temps rapide qui est celui de garçon qui a 20 ans.
Je reviens maintenant à Camus, avec le troisième moment où j'ai aperçu l'ombre de Camus. Le premier, c'était l'incipit « Tommy est mort ». Le deuxième, c'était cette phrase du mythe de Sisyphe. La troisième, c'est à la fin du roman, c'est le questionnement sur le suicide. Est-ce que la mort de Tommy est le résultat d'un suicide, d'un abandon? Et on sait que pour Camus, notamment dans le mythe de Sisyphe, il dit « la seule question philosophique vraiment véritable, c'est la question du suicide ». Alors, quelle est la place de cette tragédie-là qui s'ajoute à la mort de l'ami dans la démarche du livre, dans ce qui est inéluctable ?
Oui, en principe, le mot « inéluctable » s'applique à cette position qu'on a décrite tout à l'heure, qui est celle de croire que l'histoire se déroule de manière indépendante de la volonté des hommes, mais par ailleurs, on sait bien que la vie n'est pas inéluctable et que donc elle subit le choc des hasards et des coïncidences. La mort qui intervient quand on a 20 ans est évidemment totalement imprévisible. Alors on pourrait dire que la mort est inéluctable, mais certainement pas quand on a 20 ans. S'il y a bien une question qui n'était pas posée, c'était bien celle-là. Et donc, la déflagration qui est celle qui fonde ce roman, est effectivement de l'ordre de l'imprévisible. Concernant le rapport du livre avec Camus, tout à l'heure, on montrait à quel point la personne de Gide nous entraînait sur une autre piste, qui est celle peut-être du déficit de conviction personnelle. Sur le plan plus littéraire, il y a aussi, je pense, la trace de Gide dans l'écriture elle-même, qui, à mon avis, n'est pas exactement celle de Camus. Je pense qu'elles sont toutes les deux simples, et donc, de ce point de vue-là, belles, mais elle est beaucoup plus concrète et dans le détail, je trouve, chez Gide que chez Camus, qui a une certaine tendance à généraliser avec justesse. Mais ce n'est pas du tout la piste que suit Gide, qui évite souvent la généralisation de type moral pour s'en tenir à des descriptions qui en restent résolument aux faits. Et je pense que personnellement, c'est un peu la voie que j'ai choisie pour mon roman et pour ceux que j'ai pu écrire auparavant. Éviter l'abstrait.
Mais là, vous comparez le Gide romancier à Camus philosophe. Oui, le mythe de Sif est un essai. Donc, si on relit Noce ou L'envers et l'endroit, on s'aperçoit que cette recherche de simplicité est également une démarche propre à la manière d'écrire de Camus romancier.
Tout à fait, tout à fait. Là, c'est vrai que vous mettez le holà à une injustice que j'allais commettre.
Voilà. Alors, j'aimerais que ma dernière question ou interrogation porte sur les références non plus culturelles ni historiques, mais géographiques cette fois-ci. Vous situez très précisément le roman dans un environnement urbain, celui de Bruxelles, donc on n'est pas dans une ville qui ne s'identifie pas, on est dans des lieux que l'on peut reconnaître, un peu comme Paul Auster à New York, où on peut suivre le trajet, ou James Joyce à Dublin. Est-ce que le fait que vous ayez et que vous viviez depuis quelques années à l'étranger, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, est-ce que cela alimente d'une certaine manière, chez le romancier que vous êtes, la nostalgie géographique de lieux de référence?
C'est bien possible. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la géographie, j'y suis attaché d'une façon générale. Si vous relisez mes précédents romans, vous y trouverez toujours des déambulations, des pérégrinations qui sont inscrites dans un paysage. J'aime cette formule de Michel Chailloux, Le sentiment géographique, qui est un livre qu'il a écrit sous ce titre. Donc c'est important pour moi de déambuler dans une ville ou de marcher longtemps dans un paysage de montagne. Certains d'ailleurs m'ont fait le reproche, enfin, léger, mais quand même, que mes personnages n'arrêtaient pas de bouger et que quelque part cela prenait la place d'une réflexion en profondeur. Et que la déambulation dans un paysage, quel qu'il soit, était finalement une sorte d'échappatoire à une attitude qui consisterait au contraire à s'arrêter et à s'apesantir finalement sur une situation, comme si le déplacement se suffisait à lui-même. C'était vrai dans Sans doute, où un jeune garçon déambulait dans Bruxelles, un jeune garçon immigré d'origine marocaine.
Sans doute qui est un de vos précédents romans.
Voilà, le précédent, paru aux éditions Luce Wilquin. Et de même, ici, effectivement, Bruxelles occupe une place importante. Ses trottoirs, ses vitrines.
Son musée du cinéma.
Son musée du cinéma. Ses rues qui ont totalement disparu aujourd'hui. Hein. Je cite la rue Montoyer, qui était une rue de maisons et donc de gens, de simples gens qui y habitaient et qui se promenaient avec des cabas, alors qu'aujourd'hui, plus personne n'y habite et ce ne sont que des bureaux totalement impersonnels. Donc effectivement, vous auriez pu aussi, à propos de géographie, évoquer le fait que le roman se termine pour l'essentiel en Italie et que donc là encore on retrouve ce besoin d'à un moment donné déplacer les personnages dans un horizon un peu différent. C'est le voyage en train. C'est la découverte des berges du lac Léman, parce que le train va de Luxembourg à Milan et donc forcément longe le lac.
C'est le rapport aussi du fils au père. Le narrateur y va avec son papa. De même que Gide y allait sur les traces de Stendhal et que le narrateur va sur les traces du Gide que lui a laissé son personnage. La boucle est bouclée en quelque sorte.
Tout à fait. Et vous évoquez un autre de mes fondamentaux qui est effectivement la transmission. Où la transmission d'un paysage fait partie des choses que l'on lègue à la génération suivante. Et je n'y avais pas pensé, mais il est vrai que quand Antoine décide de ce voyage sur les traces de Gide, comme Gide lui-même l'avait fait sur les traces de Stendhal, il y a là effectivement, une fois de plus, cette obsession de la transmission. Il y a une phrase dans le livre qui évoque le lien entre le père et le fils. Hein, et donc, le père est vieillissant, le fils le sait et lucide sur cette situation, et donc accepte les recommandations du père. Et la phrase qui parle de ça dit « Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ». Et donc, on peut s'opposer à la génération antérieure de manière virulente, ce qu'Antoine ne se prive pas de faire quand il s'agit de politique, et néanmoins, de manière très implicite, être fidèle à la génération antérieure, parce que tout simplement, un paysage parle de la même manière.
André Soile.
André Soile, oui, voilà. Pourquoi pas. Daniel Gilles.
Lapsus. Lapsus. Donc, j'étais en train de me dire que vous ressemblez... un peu à Gide avec les lunettes et si ouais, ce n'est que vous avez des cheveux.
Mais
non mais je reprends ma chute parce que ça. Daniel Soile, je vous remercie pour ce roman inéluctable. Je le rappelle, il est publié aux éditions Inuit, IN et puis le chiffre 8 malgré
que
le jeu
de mots. Inoctavo également, hein, qui est une autre façon de dire le nom de cette maison d'édition.
Absolument, j'avais pensé Inuit avec un jeu de mots sur les populations inuites, la langue inuite, l'art inuit.
C'est vraiment ça qui est à l'origine de ce nom.
Alors, édition Inuit ou Inoctavo, collection Alter Ego, le roman s'appelle Inéluctable. Merci Daniel Soile.
Merci à vous.
Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.